le jeudi 22 mai 2025, la commune de Brumath a organisé une cérémonie pour la pose de Stolperstein à la mémoire de personnes persécutées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec une première mondiale, une malgré elle, mais aussi des résistants, des citoyens juifs, au total 11 pavés de mémoire ont été scellés devant le dernier domicile des victimes du nazisme. Un travail mené avec les écoles de Brumath, une classe de CM2 de l'école Robert Schumann et une classe de 3e du collège Marcel Weinum. Le premier Stolperstein a été installé à la mémoire de Yvette Schack, le premier à la mémoire d'une malgré elle.
Force à rejoindre l'armée allemande, toi, une jeune Alsacienne, une malgré elle, qui n'avait rien demandé d'autre que de vivre. En septembre 1939, tu as dû fuir, quitter ta maison, ta famille, te réfugier dans les Vosges.
On t'a envoyé à Flensbourg, puis près de Kiel, et enfin en Pologne, près de Danzig. Et puis, comme des milliers d'autres, tu t'es retrouvé dans un ancien navire de croisière, un bateau qui aurait dû symboliser les vacances et qui est devenu un piège flottant.
Disparu dans la mer Baltique avec 5 de tes compagnes alsaciennes.
Thierry Wolfersberger, adjoint au maire de Brumath, sur la raison de cette cérémonie.
J'ai lu un article dans Le Parisien qui disait que les jeunes, nos jeunes de 15 à 25 ans, ne savaient pas ce que c'est la Shoah ou n'avaient aucune idée ce que c'était la déportation. Et puis quelques semaines après, la coïncidence, j'ai croisé Christophe et il m'a présenté ses pavés. On a créé une commission, d'abord avec des élus. Ce qu'on souhaitait, c'est qu'on implique les jeunes. Donc on est allé voir le collège, on est allé voir aussi les écoles primaires, Schumann. Spontanément, des profs ont dit ben, « nous, on veut bien ». Après, comment on les a choisis, on avait cette commission avec l'interreligieuse. Je voulais aussi qu'on puisse, entre guillemets, asseoir, ancrer cette personne dans Brumath. Donc on a cherché des gens où on avait des histoires. Et Yvette, c'est une histoire à la limite tellement romanesque qu'on pourrait presque en faire un film. Tout ce que je voulais, c'était vraiment que les Brumathois puissent s'approprier, vous voyez, qu'on sache vraiment qui c'est, qu'on a une histoire, que ce ne soit pas seulement qu'un pavé, même si c'est déjà important.
Et ainsi, dans un parcours dans la ville, d'autres pavés, d'autres mémoires sont honorés, dont Joseph Matisse.
Joseph Matisse était le fils de Ferdinand Matisse et de Caroline.
Le 27 août 1920, à Brumath, il épouse Marie-Florentine Ziernel. De leur union naîtront deux filles, Cécile Thérèse en 1923 et Marie-Léonie en 1941. Mais la guerre n'épargne personne. Lorsque les Allemands envahissent Brumath, Joseph est contraint d'effectuer le travail obligatoire. Puis vient la captivité, l'exil, l'éloignement des siens et enfin la mort.
Sur chaque Stolperstein sont déposés des oiseaux en papier, confectionnés par les élèves.
En fait, on a pris des petits oiseaux et après on a écrit par exemple le nom de la personne et après devant chaque pavé de mémoire on va les poser.
Un Stolperstein à la mémoire de Léon Loeb, son fils était présent à la cérémonie.
Après sa déportation, on ne savait pas ce qui était arrivé à Léon. Il a fallu attendre la fin de la guerre, avec le retour des quelques survivants, pour savoir que tous ceux qui ne revenaient pas avaient été assassinés. Après la guerre, donc, nous sommes allés à Paris, et nous, comme nous sommes traditionalistes, nous avons été à la synagogue de la Victoire, qui était un clone, si je puis dire, de la grande synagogue de Strasbourg, qui est Kléber, qui a été incendiée par les nazis. Et le rabbinat français a décidé en 1946, puisqu'on ne connaissait pas et on ne connaîtra jamais la date de décès des déportés, et bien que l'hommage annuel dans la religion rendu à un proche décédé, et bien ce serait un jour unique dans l'année, c'est au mois de septembre, un peu avant la fête du Nouvel An.
Le président de l'association Stolperstein France, Christophe Verlet, a été maître de cérémonie durant tout le parcours à travers la ville de Brumath.
La proximité de la synagogue nous fait comprendre que le quartier ici était habité par de nombreux juifs. Pierre, Bombay, Blanche et Clémence ont été arrachés ici de leur domicile et ne sont jamais revenus. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous la petite nièce de Blanche et Clémence, que nous remercions de tout cœur d'être avec nous. Avant qu'on pose un Stolperstein, je me pose toujours la question, est-ce qu'on se souvient de ces gens, finalement, avant qu'on pose des Stolperstein? Et ramener dans l'espace urbain ces noms qui brillent, eh bien, c'est un élément majeur pour ne pas oublier. À présent, nous allons écouter l'histoire de ces trois personnes. Ce sont des enfants de primaire, ce sont des enfants du collège. Ce travail est absolument important et a demandé beaucoup d'efforts de la part de ces jeunes. À présent, nous allons lire leur histoire et pendant ce temps, poser et sceller les pavés pour l'éternité dans les rues de Brumath.
Cher Pierre Bombé, nous avons lu votre histoire et elle nous a profondément touchés. Vous êtes né le 4 janvier 1906 à Brumath. Un moment de votre vie, vous étiez commerçant. Mais un jour, votre vie a basculé. Vous avez été dénoncé en raison de votre circoncision.
Le 20 novembre 1943, vous avez été déporté de Drancy vers Auschwitz dans le convoi numéro 62. À votre arrivée au camp, on vous a attribué le matricule 7911. Vous avez été assassiné 5 jours plus tard, le 25 novembre 1943.
Jamais que tu suis ton dernier chemin, quand les jours bleus sont écrasés par un ciel bas, l'heure viendra que nous avons tant espéré, frappant le sol, ne pas dire où nous sommes là.
Le président de la communauté juive de Brumath, Isidore Altberg.
Et voilà, c'est bien qu'on fasse des choses en mémoire et qu'on fasse encore vivre cette synagogue et s'occuper de ce cimetière qui malheureusement est appelé encore à s'agrandir tout doucement.
Mais ces pavés de la mémoire, ils représentent aujourd'hui des membres à part entière. Vous allez honorer cette mémoire ?
Ben, je pense qu'on pourra, dans le cadre de l'interreligieux qu'on a à Brumath et qui fonctionne bien, organiser des choses autour de ces pavés de la mémoire et du jardin des religions qu'on a créé il y a quelques années à Brumath. Donc c'est des projets qu'on a en cours.
Et c'est Isidore Altberg qui récite le Kaddish devant l'ancienne école israélite de Brumath, à la mémoire de Léon Loeb, assassiné à Auschwitz le 30 septembre 1943.
Le Kaddish, c'est la prière des morts qui est récitée en particulier à l'anniversaire de deuil annuel des proches de la famille. Donc ce Kaddish, je le dis en hébreu, Yiskadal v'Yiskadash Shemei Ravo. Amen.
Les histoires individuelles rejoignent la grande histoire. Les témoins sont essentiels dans cette transmission, comme ici avec Ariane Heyman.
Moi, je m'appelle Ariane Heyman. Ma grand-mère était sœur des deux dames. Elles sont nées Raphaël et les deux dames Bombay. Elles avaient épousé deux frères, deux sœurs qui avaient épousé deux frères. Et une n'avait pas d'enfant et l'autre dame blanche avait deux fils. Un qui, pendant la guerre, était prisonnier de guerre et l'autre, Pierre, qui est mort à Auschwitz, était un ami de Jean Moulin. Il habitait à Lyon. Et il a été arrêté au fort Montluc et a été torturé aussi par Klaus Barbie. On habitait Nyons. Moi, j'étais petite fille et comme c'était pendant la guerre, on avait des cartes pour le lait. Et comme déjà je ne prenais pas de lait, ma maman l'amenait tous les deux jours à ses deux tantes. Et un matin, maman y est allée, mais la porte a été enfoncée à coups de hache et elles étaient parties. Elles ont été dénoncées parce qu'elles hébergeaient des maquisards. Elles étaient donc considérées comme combattantes. Elles ont été déportées à Auschwitz. Elles sont décédées dès leur arrivée, comme c'était dames d'un certain âge. Elles ont été gazées, ou comme on dit tout de suite, dès leur arrivée.
Le fils de Léon Loeb a fait le déplacement pour cette pause de Stolperstein. Son père est né en 1905 à Brumath. Il y est resté jusqu'en 1935. La suite du récit.
À partir de 1935, mon père et ma mère ont habité Strasbourg. Jusqu'à ce que le Gauleiter Wagner décide de l'expulsion des Juifs. Donc on s'est retrouvés, toute la famille s'est retrouvée dans le Jura, un peu plus loin que la ligne de démarcation. Et nous avons trouvé un appartement à Lyon. Et quand la pression anti-juive est devenue trop forte à Lyon, on a été en Savoie, qui était sous occupation italienne à l'époque. Le général commandant des troupes d'occupation italienne avait interdit au préfet de Vichy toute action anti-juive, donc on était un peu protégés.
Des pavés de mémoire, des destins tragiques, des destins changés comme ceux de Théophile Bicard et Gabrielle, son épouse.
Ensemble, ils ont eu deux enfants. Marcel, né en 1935, et Marie-Louise, née en 1938. Une famille comme tant d'autres qui ne demandait qu'à vivre en paix. Mais en 1943, tout a basculé. Le 26 mars, Gabriel est arrêté lors d'une rafle.
Les deux enfants encore petits sont arrachés à leurs parents. Placés à l'assistance publique, séparés de ceux qui les aimaient, quelques semaines plus tard, le 31 juillet 1943, Théophile et Gabriel sont déportés depuis 36 dans le convoi numéro 58.
Ils sont envoyés à Auschwitz. Théophile y meurt le 5 août 1943. Il n'a jamais revu ses enfants. Il n'est jamais revenu. Aujourd'hui, nous disons son nom, Théophile.
Il n'était pas un criminel. Il ne posait aucun problème. Il était respecté, aimé. Et pourtant, on l'a détruit. Ce pavé que nous posons aujourd'hui est là pour lui rendre sa place dans l'histoire, pour ne pas oublier.
Leur fils, aujourd'hui âgé de presque 90 ans, Marcel Bicard Mendel, adopté par sa tante, était présent à la cérémonie.
Gabriel Bicard Neveil est de mon grand-père, Théophile Bicard, victime de la barbarie nazie. À travers la pose d'un pavé de mémoire, une Stolperstein, dans ce village de Brunat, où Gabriel est né en 1902. Gabriel est né ici au foyer de Charles Weil et d'Henriette Weil, née Lévy. Elle avait trois frères et sœurs, Fernand, Hélène et Alice. Henriette est retournée vivre avec ses quatre enfants à Neuf-Brisach auprès de son frère et de sa sœur Paul et Pauline Lévy. Plus tard, dans les années 30, Gabriel et Alice ont épousé deux frères Bicard, Théophile, mon grand-père, et Sylvain, tous deux bouchers du village voisin de Bissheim. Les descendants de Sylvain, Jojo et ses filles sont présents ici à nos côtés. Gabriel et Théophile ont eu deux enfants. Marcel, mon papa, qui est à mes côtés, né en 1935, et sa sœur Mali. La famille a payé un très lourd tribut à la guerre et à la Shoah. Gabriel et Théophile Bicard, ainsi que les enfants, Marcel, Mali et Jojo, et les aînés, Henriette, Paul et Pauline, ont été raflés à Plombières, dans les Vosges, où ils avaient trouvé refuge en mars 1943. Les enfants ont été sauvés, mais mes grands-parents et les aînés, après avoir séjourné dans les camps d'internement d'Écrouve et de Drancy, ont tous été déportés à Auschwitz par les convois 58 du 31 juillet 1943 et 71 du 13 mars 1944. Fernand, lui, se trouvait à Manille, aux Philippines, au début de la guerre. Il a été capturé par les Japonais et interné dans des conditions horribles. Il a été soigné par une infirmière philippine qu'il a épousée après la guerre. Hélène, la dernière sœur, a épousé Jérôme Mandel de Quatzenheim. Réfugiés à La Châtre, ils ont pu récupérer les trois enfants, Marcel, Mali et Jojo, et se sont cachés durant toute la guerre. Ils sont revenus en Alsace en 1945 et se sont réinstallés dans le village de Quatzenheim et ont adopté les deux enfants Bicard, leur donnant le nom de Bicard Mandel. Au nom de notre famille ici présente, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance pour avoir permis l'aboutissement de ce projet. Ces petites pierres de laiton si discrètes et pourtant si puissantes nous rappellent que derrière les grandes tragédies de l'histoire, il y a des vies, des noms, des adresses, des existences fauchées. Elles portent en elles une mémoire immense. Elle fait exister Gabriel Théophile dans vos rues. Elle est là pour rappeler que cette femme, comme tant d'autres, fut arrachée à sa vie, à son humanité, à sa famille.
Marcel Bicard Mendel revient sur son adoption.
C'est une décision du juge de l'adoption qui, en 1948, lorsque j'ai été adopté par ma tante, a exigé que je porte les deux noms pour qu'on n'oublie jamais que je suis né Bicard et qu'on n'oublie jamais l'histoire des Bicards. Déjà, cet homme-là était un résistant.
Vous êtes le fils de Théophile et Gabriel Picard qui ont été déportés. Aujourd'hui, il y a deux Stolperstein ici à Brumath. Ils sont rentrés à la maison.
Oui, exact. Et j'ai jamais été aussi ému que cette fois-ci. J'ai fait la troisième fois que je pose des Stolperstein à leur mémoire. Mais je n'ai jamais été aussi ému que cette fois-ci.
Et la mémoire de vos parents que vous avez très peu connus?
C'est toute une histoire. J'ai, d'après ce qu'on m'a raconté, mis un mur sur cette histoire pour ne pas me souvenir. Et cette mémoire a été ravivée le 7 octobre. Les flashs sont revenus à cette époque-là. Donc pendant 80 ans, j'ai occulté mon histoire. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Le pogrom de Gaza à l'époque m'a fait prendre conscience que je dois porter témoignage de ce qui s'est passé.
Cher Philippe Veldeweg, nous ne vous connaissons pas et pourtant aujourd'hui nous pensons à vous. Nous savons que vous êtes un civil, que vous n'avez rien fait de mal et pourtant vous et votre épouse Marie vous avez été tués. Nous trouvons cela profondément injuste.
Nous aurions aimé vous rencontrer, vous poser des questions simples. Aviez-vous des enfants ? Comment était votre enfance ? Aviez-vous des rêves, des projets, des joies ?
Est-ce que vos parents étaient encore là quand vous êtes partis ? Mais aujourd'hui, c'est trop tard. On ne peut plus vous parler. On peut qu'imaginer et surtout se souvenir. C'est pourquoi nous sommes là.
Pour dire votre nom, pour que votre mémoire ne soit pas oubliée. Philippe Veldeweg, vous n'êtes plus un nom perdu dans les archives.
Vous êtes avec nous aujourd'hui. Ce petit pavé posé devant nous est bien plus qu'une pierre. C'est un rappel, un hommage, pour ne pas oublier.
Ariane Pitsilis, adjointe au maire de Brumath, professeure au collège, initiatrice du projet.
Je m'appelle Ariane Pitsilis, je suis le professeur de français des troisièmes qui ont participé à ce projet et je suis avec monsieur Wolfersberger à l'initiative des Stolperstein de Brumath.
Pourquoi ? C'était quoi votre motivation à cette initiative ?
La motivation première, c'est la transmission. Comme j'ai dit à mes élèves de troisième, c'est la première génération à ne connaître personne qui pourra leur transmettre vraiment de façon directe les choses. Et donc c'est quelque chose de très important pour moi. Bon, puis on est quand même au collège Marcel Weinung, donc ça s'imposait. Et en fait, on avait entendu un reportage qui disait que beaucoup de jeunes ne savaient même plus ce que c'était que la Shoah, enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure. Là. Et c'est vraiment important de transmettre, surtout dans le contexte actuel, je pense.
Comment est-ce que vous avez proposé justement le projet aux élèves et comment est-ce qu'ils l'ont accueilli ?
Alors, je leur ai proposé en leur disant, bah, c'est vous, voilà, c'est comme ça, ce sera vous. Ils étaient contents de travailler avec les CM2. Les CM2, encore plus de travailler avec les troisièmes. Et puis, on a abordé ça de façon très progressive. Je leur ai fait lire des témoignages du Simone Veil, du Voyage à Pitchipoy. On a vu aussi le film de Azanavicius, La plus précieuse des marchandises. On a lu le conte. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est dans leur programme d'histoire. Ils sont allés à Schirmeck la semaine dernière. Et voilà, ils ont eu du mal à s'emparer de la chose. Et puis, je pense que j'ai l'impression que vraiment, aujourd'hui, ils se rendent compte là, de toute l'émotion qu'il y a dedans et ça les touche. Et ça, c'est bien, ils ont vraiment compris aujourd'hui.
Est-ce que les élèves se sont emparés de ces histoires, ont eu envie d'aller plus loin dans ces recherches et dans l'histoire de ces voisins qui étaient là à Brumath il y a 80 ans ?
Alors oui, c'est quelque chose qui les a touchés au fur et à mesure. Au départ, ils avaient juste les documents d'archives, donc ça leur paraissait très loin, très, très étranger. Et puis au fur et à mesure, on a eu des détails sur leur vie. Vous avez entendu l'histoire du Doberman qui suit la voiture, l'histoire de Weinung qui est mort à 18 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose qui les a touchés aussi. La petite Yvette Chaquet aussi qui est morte, qui n'était pas très loin de l'orage. Et puis ces familles qui ont été disloquées par la déportation. Et ils se sont rendus compte qu'ils passaient devant chez Franz, donc le boulanger, ils passaient devant tout le temps et ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Donc c'est vraiment quelque chose qui les a touchés au fur et à mesure. Ouais. Ouais.
Un gamin au regard droit, un gosse qui disait non quand d'autres baissaient la voix.
Un ado debout quand le monde succombe, il crée la main noire à main nue contre l'ombre.
Pas un soldat, un gamin au regard droit, un gosse qui disait non quand d'autres baissaient la voix.
Marcel Weinung, déporté vers Stuttgart, décapité peu après. Marcel Weinung, le 14 avril 1942, il trouve la mort.
14 avril 1942, le silence est lourd. Le cœur est fou. Il avait des rêves plus loin que la guerre. Sa tête tombe, son idée reste debout.
Comme évoquait l'histoire de Marcel Weinung, jeune brumatois, résistant du groupe de la Main Noire, dont le collège aujourd'hui porte le nom. Alice Schneider, la petite nièce de Marcel Weinung.
J'étais une gamine encore, mais toute la famille en a souffert.
Et sur la transmission de cette histoire.
Vous savez, à l'époque, c'était un peu caché. Et c'était pas comme aujourd'hui. Il est né là dans cette maison et mon père, c'était le plus jeune, il habitait ici avec la grand-mère et ma mère, quoi, et moi. Et Marcel venait toujours ici. Il avait un copain qui habitait pas très loin, les Boltes, et il était souvent là-bas aussi.
Et concernant cette reconnaissance publique à Marcel Weinoum?
Oui, il est là. Et là, je vais faire le tour. Je me promène beaucoup. Alors, je vais faire le tour des pierres qui ont été posées. C'est ce que j'ai pensé là, en voyant tout ça.
Pour finir, Christophe Verlet, président de l'association Stolperstein France, sur les démarches et demandes pour la pose d'un Stolperstein.
Alors, c'est différentes démarches. Hein. Il peut y avoir donc des démarches familiales, des familles qui demandent pour leur propre victime. Ensuite, il y a des démarches comme ici à Brumath où c'est la commune qui est à l'initiative. Mais ça peut aussi être une école. Très souvent, ça arrive. Ou une association d'anciens déportés, etc., etc. Alors nous, on se base que sur une seule source où sont rassemblées toutes les autres sources. C'est la division des archives des victimes des conflits contemporains qui est à Caen, où nous allons chercher chaque dossier. Et donc pour chaque déporté, il y a un dossier. Et c'est ce dossier-là que nous récupérons, que nous mettons en œuvre pour qu'il devienne un dossier pédagogique, que nous mettons à la disposition des enseignants pour qu'ils puissent s'en servir pour retracer le parcours de chaque victime. Ensuite, évidemment, les familles ou les documents autres qui pourraient s'ajouter aux recherches viennent s'ajouter. Mais d'abord, à la base, on se base que sur les documents officiels du service historique de la Défense.
Est-ce que vous avez des chiffres quant à la pose de Stolperstein ici en Alsace et en France sur le territoire national?
Alors sur le territoire national, on est à peu près à plus de 1000. Et en Alsace, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas être loin des 400 ou 450 pavés. Nos premiers pavés ont été posés aussi pour des yéniches, pour les témoins de Jéhovah, pour des homosexuels, pour dans le projet Stolperstein, c'est ça en fait. Les victimes juives font également partie, évidemment, en premier lieu, de la déportation, mais il y a aussi des fusillés, il y a des résistants déportés politiques. Toutes ces victimes sont honorées par des pavés. Aujourd'hui, en l'occurrence, on a aussi des jeunes du Reichsarbeitsdienst, on a aussi Weinoum, donc ce résistant alsacien, voilà, qui a été décapité et qui a droit à son Stolperstein comme il est une victime du nazisme.
Lors de la cérémonie de ce 22 mai à Brumath, 11 Stolperstein ont été posés.
Léon Loeb, déporté, assassiné à Auschwitz le 30 août 1943, il avait 38 ans. Joseph Matisse, mort en camp de travail obligatoire en Allemagne, le 12 juin 1945, il avait 54 ans. René Spengler, déporté à Schirmeck et rescapé. Philippe Feldenweg, fusillé le 22 décembre 1944, il avait 43 ans. Marcel Weinoum, décapité le 14 avril 1942, il avait 18 ans. Gabrielle Bicard, morte en déportation le 4 août 1943, elle avait 41 ans. Théophile Bicard, assassiné à Auschwitz le 4 août 1943, il avait 54 ans. Yvette Chaquet, malgré elle, assassinée en déportation le 30 janvier 1945, elle avait 19 ans. Clémence Bombay, assassinée à Auschwitz le 8 février 1944, elle avait 56 ans. Blanche Bombay, assassinée le 8 février 1944, elle avait 60 ans. Pierre Bombay, assassinée à Auschwitz le 25 novembre 1943, il avait 37 ans.